De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du fort, du puissant est sorti le doux. Rien de plus puissant, de plus grand que le mystère de Noël. Et en même temps, rien de plus doux, de plus aimable que ce mystère. Du fort est sorti le doux. Premièrement, rien n'est plus grand, plus puissant que Noël. Le mystère de Noël, c'est la naissance du Dieu fait homme, c'est l'incarnation du Verbe. Or, le mystère de l'incarnation est le plus grand de tous les mystères que Dieu ait réalisé en dehors de lui-même. Car l'incarnation est le dernier terme de la puissance infinie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire en dehors de lui de plus grand que l'acte de l'incarnation. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Et nul ne sait le secret, et nul ne peut dire le mystère de ce premier Noël, de ce Noël de l'éternité, qui est l'éternelle génération du Fils, sorti du sein du Père avant l'aurore. Or, de toute éternité, Dieu s'est suffi à lui-même, déployant dans le sein même de sa nature une puissance d'intelligence infinie par l'éternel engendrement du Fils égal et consubstantiel à lui, et aussi une puissance infinie d'amour par l'éternel embrassement du Père et du Fils dans une opération consubstantielle à l'un et à l'autre, d'où procède le Saint-Esprit égal et consubstantiel au Père et au Fils. Au commencement donc et de toute éternité, il en était ainsi. Quand un jour, et ce fut le premier des jours, il plut à Dieu de faire quelque chose en dehors de lui-même. Ce quelque chose, ce fut l'univers et l'homme, roi de l'univers. L'Esprit Saint, au livre de la Sagesse, dit que ce fut là un jeu pour le Très-Haut. Ludens in orbite rarum. Dieu était jouant sur la surface de la terre. Il a parlé et le néant a obéi à sa voix. La création d'une étoile n'a pas plus coûté au bon Dieu que celle d'un grain de sable. La Sainte Écriture semble supposer que Dieu se soit recueilli et ait délibéré au-dedans de lui pour créer l'homme. Saint Jean Chrysostome note le changement de langage dans la Sainte Écriture. En effet, Dieu n'a pas dit que l'homme soit, comme il l'a fait pour la lumière, les eaux, la terre, les cieux et les animaux. Mais il a dit « faisons ». Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce changement de langage ne fut pas à cause de l'homme en lui-même, mais c'est parce que Dieu apercevait derrière Adam un autre homme, un second homme, dont le premier n'était que l'ébauche. Derrière Adam, dit Tertullien, Dieu voyait le Christ. Et le cardinal Pie ajoute, Noël lui apparaissant alors à 40 siècles derrière ce sixième jour de la création. Mais encore une fois, l'homme en lui-même coûta peu à la puissance divine. Un peu de boue, un souffle dessus, voilà tout ce que Dieu a dépensé pour le premier homme. Où donc est le miracle et la plus grande manifestation de la puissance divine? Saint Paul nous répond, la plus vive expression de la force ou de la vertu de Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Christum Dei Virtutem. Ce sont les mots de la première épître aux Corinthiens. Le Christ est la vertu, la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un acte divin qui épuise en quelque sorte toute l'énergie créatrice de Dieu, et cet acte, c'est l'incarnation. Le roi David, lui aussi, a une expression semblable, expression que l'Église s'est plu à reprendre tout au long de cette liturgie de l'Avent. Excita potentiam tuam et veni. Seigneur, réveillez votre puissance, potentiam, et venez. Comme s'il avait dit, mon Dieu, faites un effort, manifestez votre puissance. La Vierge Marie tint à son tour un langage identique lorsque son âme s'épancha dans le cantique du Magnificat et qu'elle prononça ces paroles surprenantes. Fecit in me mania qui potens est. Celui qui est puissant, potens, a fait en moi de grandes choses. Et elle ajoute un peu plus loin, Fecit potentiam in brachio suo. Il a déployé le bras de sa puissance. Et comme dit le texte, dans son sens littéral, il a fait la puissance dans son bras. C'est-à-dire, le prodige qu'il a opéré n'est pas seulement un effet de sa toute-puissance infinie, mais c'est cette toute-puissance infinie manifestée dans toute son énergie possible. Or, qu'a fait le Tout-Puissant en cette Vierge ? Il a fait ce que demandait David. Il est venu, il s'est incarné. Mais qu'est-ce donc alors que ce grand acte de l'incarnation, dans lequel saint Paul voit toute la puissance de Dieu épuisée, dans lequel David et Marie voient comme le tour de force de la toute-puissance divine. Qu'est-ce que l'incarnation ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Puis Dieu créa l'univers et l'homme, c'est-à-dire qu'il donna l'être à tout ce qui n'était pas. Et l'homme, à peine sorti du néant, retomba au-dessous même du néant par le péché. Or, dès que l'homme fut tombé, déchu, dégradé, Dieu voulut le relever. Pour cela, le Verbe, qui est éternellement dans le sein du Père, descendra dans le sein d'une femme. Le Verbe, qui est consubstantiel à Dieu, épousera la nature humaine et la prendra dans l'unité de sa personne divine. Celui qui était Dieu sera en même temps homme, moins le péché, bien sûr. Il aura tout de la nature humaine. En lui, Dieu et l'homme, sans se confondre, seront néanmoins si intimement et hypostatiquement unis, c'est-à-dire unis dans la personne divine du Verbe, que ce qui se dit de Dieu pourra se dire de l'homme, et que ce qui se dit de l'homme pourra se dire de Dieu. Deux natures, mais une seule personne. Voilà ce qu'est l'incarnation. Voilà ce qu'est le mystère du Christ. De sorte que le Christ est celui qui, d'une main, touche aux profondeurs infinies de la gloire par sa nature divine, et de l'autre va plonger dans les profondeurs infinies du néant par sa nature humaine, et plus bas encore dans les profondeurs infinies du péché, car bien qu'il n'ait pas péché lui-même, il a pris sur lui tout le poids du péché. Il est aussi celui qui, rapprochant ces deux abîmes entre lesquels il est placé, fait monter le néant jusqu'au niveau de l'être souverain, et incline le ciel jusqu'au niveau de la terre. Le Christ, c'est en définitive celui qui est en Dieu, s'est fait homme pour faire l'homme Dieu. L'incarnation est bien le dernier effort de la toute-puissance divine, et donc le plus grand et le plus puissant de tous les mystères que Dieu ait opéré. Mais du fort est sorti le doux. Deuxièmement, rien n'est plus doux que le mystère de Noël. Si le mystère de Noël a son côté de grandeur par lequel il s'adresse à nos esprits, il a surtout son côté de douceur par lequel il s'adresse à nos cœurs. L'incarnation ne s'est pas déroulée au milieu des éclairs et des tonnerres du Sinaï. Nous aurions alors, comme les Hébreux, préféré mourir plutôt que de voir Dieu. Non, il n'en a pas été ainsi. Dans la crèche, nous n'avons vu qu'un homme semblable à nous, et même qu'un enfant dans un berceau. Dieu, qui est infiniment jaloux du cœur de l'homme, ne l'a créé que pour lui. Et d'ailleurs, lui aussi, lui seul, peut contenter le cœur de l'homme. Aussi, afin de l'attirer vers lui, il l'a accablé, inondé de bienfaits. Et malgré tout cela, Dieu vit que l'homme ne savait pas l'aimer. L'homme était charnel, et Dieu était tout spirituel. Dieu ne tombait point sous l'essence de l'homme. Alors que fit le Seigneur ? Écoutons saint Augustin. Ô homme, se dit le Seigneur, tu n'aimes que ce qui est sensible. Eh bien, je deviendrai sensible. Tu es composé de chair, eh bien, je me ferai chair. Et verbum caro factum est. Et le Verbe s'est fait chair. Nous avons vu dans notre propre nature le Verbe de Dieu. Aussi, saint Thomas nous donne-t-il cet avertissement. Et maintenant, homme, tu seras inexcusable si tu n'aimes pas ton Dieu. Car tu aimes l'homme à cause de la ressemblance de nature. Or Dieu s'est fait semblable à toi. Mais ce n'est pas tout. Dieu, en se faisant homme, aurait pu prendre la nature humaine dans son état de gloire. Nous eussions été ici encore effrayés. Non, il s'est fait enfant, et le plus beau des enfants. Or rien n'est plus aimable sur la terre comme l'enfance. Dieu, jaloux de notre amour, a voulu en quelque sorte assortir sa nature, sa façon d'être, aux proportions de notre cœur. Il est descendu sur la terre avec tous les attraits, tous les charmes de l'enfance. Et la crèche de Jésus lui fut si chère qu'il chercha toujours à s'en rapprocher le plus possible. Aux habits de l'enfant succédèrent ceux d'une vie obscure. À ceux-ci, les vêtements sanglants de la souffrance, puis le linceul du sépulcre, et enfin, les voiles de l'Eucharistie. Le mystère de Noël, commencé dans la crèche, se poursuit dans le tabernacle, où Jésus ne fait qu'échanger les langes de Bethléem pour ceux du sacrement. Dans le tabernacle où Jésus s'est fait moins qu'un enfant pour pouvoir devenir notre nourriture, mais où il conserve tellement les affections, les habitudes, les vertus et les allures de l'enfance, que dans de très nombreuses apparitions eucharistiques, il lui a plu d'apparaître sous la forme d'un enfant dans l'hostie consacrée. Le tabernacle est comme le dernier terme de l'incarnation, et donc est véritablement semblable à la crèche qui en est le point de départ. Bethléem, qui signifie la maison du pain, se trouve dans un sens au Cénacle plus qu'à Bethléem même. Nous avons donc véritablement au milieu de nous le cher enfant de Bethléem, au tabernacle. Nous allons pouvoir en ce jour aller l'adorer avec les bergers, le presser sur nos cœurs. Nous allons pouvoir faire sa crèche au-dedans de nos cœurs. Car à vrai dire, le point de départ de l'incarnation a été le sein de Marie, et c'est dans ce sanctuaire virginal qu'il s'est incarné. Et le terme de l'incarnation, c'est notre propre cœur. C'est là que le mystère de l'incarnation s'achève. Aussi n'est-il pas vrai qu'envisager en lui-même, ou bien dans ses conséquences, le mystère de Noël est le plus doux de tous les mystères ? Et l'énigme de Samson, que nous avons cité au tout début, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux, trouve ici toute sa signification. La réponse de Samson fut la suivante. Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? Car il avait vu, peu de temps auparavant, le corps du lion qu'il avait tué de ses propres mains, rempli d'un essaim d'abeilles et du miel qui coulait de la gueule du lion. Mais celui qui mange, ce fort, est davantage, selon les pères de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai lion de la tribu de Judas qui a été mis à mort et du cœur duquel ont jailli tous les sacrements et surtout le plus grand d'entre eux, la Sainte Eucharistie, vrai miel pour nos âmes. Alors, en cette nuit de Noël, laissons-nous toucher par la douceur de l'enfant Jésus. Soignons bien cette communion de Noël, que l'enfant Jésus que nous allons serrer sur notre cœur, dans notre âme, nous conduisent suaviter et fortiter, doucement et fortement, à l'amour de la croix. Le mot est dit. Pas de véritable amour de Dieu sans l'amour de la croix. Mais ici encore, cet amour de la croix nous sera donné aussi par le très saint sacrifice de la messe par la Sainte Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.